Cinquièmement, l'Église émergente, encore c'est une généralisation, l'Église émergente doit étudier davantage ce que dit la Bible. Des fois, les leaders de ce mouvement parlent de ce mouvement comme si c'était une autre grande réforme. Mais la différence entre Calvin, Luther, Melanchthon, et ainsi de suite, et eux autres, bon, il y a bien des différences, mais la différence que j'ai en vue, c'est que les réformateurs s'apercevaient que l'Église s'éloignait des Écritures et voulait réformer l'Église catholique vers les Écritures. Mais ce mouvement émergent s'aperçoit que la culture s'éloigne de l'Église et veut donc réformer l'Église vers la culture. Maintenant, ça aussi, c'est une généralisation qui n'est pas exactement juste. Après tout, ils utilisent la Bible de temps en temps et ils donnent des exemples de la Bible et tout cela. Mais ce qui les pousse, c'est leur analyse de la culture. Et c'est une analyse postmoderne. Même s'ils ont raison, quand même, il faut poser la seconde question, que dit la parole de Dieu? Maintenant, quand j'élève ces questions en public, ils disent, nous croyons que nous sommes plus bibliques que les modernes, les chrétiens modernistes. Sans doute, c'est ça qu'ils croient. Mais quand même, ça ne prend pas beaucoup de temps dans leurs livres pour se rendre compte du fait que ce qui les pousse, ou, changer la métaphore, ce qui les attire, c'est la vision d'une culture émergente qui doit donc réformer nos églises dans une vision aussi émergente. Ce n'est pas une question de fidélité envers la Bible. Ce n'est pas comme si ils lisaient la Bible et ils disaient entre eux, et voyons donc les évangéliques ou les pentecôtistes ou quoi que ce soit abandonnent la parole de Dieu et donc nous allons avoir une autre réformation pour revenir à la sainte parole. Mais plutôt, la culture est tellement changée qu'il faut avoir une révolution dans nos églises. Maintenant, ça, ce n'est pas nécessairement méchant. Après tout, l'apôtre Paul, comme nous avons déjà vu, est prêt à changer au moins la forme de sa prédication entre Actes chapitre 13 et Actes chapitre 17 parce qu'il se trouve dans une autre culture. Oui, il y a des places pour évaluer ces choses. Mais quand même, ce que nous trouvons assez souvent dans les conférences et dans les livres et dans les pensées de ces leaders de l'Église émergente, c'est l'analyse de la culture avec des textes bibliques attachés et non pas une analyse biblique qui nous pousse à réfléchir comment évangéliser ce monde. Tout dernièrement, je parlais à une conférence aux États-Unis, une conférence de pasteurs qui voulaient mieux comprendre ce mouvement. Et dans la période de questions et de réponses, on avait dans notre groupe de 1000 personnes quelques pasteurs assez jeunes qui avaient assisté tout dernièrement à une des grands ralliements de ce mouvement, un ralliement de peut-être 3000, 4000 pasteurs de l'Église émergente. Et dans cet ralliement, il y avait des petits groupes de 200 à 250. Pour des études, des séminaires spécialistes. Un de ces séminaires, apparemment, touchait la question « Comment prêcher la parole de Dieu? Comment enseigner la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est la théologie biblique? Tous les autres séminaires touchaient d'autres questions. Qu'est-ce que c'est un leader? L'analyse de la culture, et ainsi de suite. Mais au moins, il y avait un séminaire qui examinait qu'est-ce que c'est la théologie biblique, comment la prêcher. Et il y avait 200 personnes qui avaient assisté. Et on les divisait en quatre, donc un petit groupe de 50 personnes. Et dans ce groupe, il y avait peut-être 4 ou 5 Bibles. Et quand on a commencé d'étudier un passage donné par les leaders, qu'il fallait étudier ensemble pour comprendre ce que ça veut dire et ce que ça veut dire pour nous dans notre culture, un des pasteurs d'une église émergente a dit « Ah, je ne peux pas comprendre cela, c'est complètement difficile. Quand je prêche, je choisis déjà l'idée, ensuite je trouve un texte pour l'exprimer. » Il était si clair et si simple, si honnête que cela. Et le résultat pour le groupe de 200 était tellement éloigné de ce que disait la parole de Dieu que les jeunes pasteurs que je connaissais étaient tellement déçus qu'ils ont décidé à cette étape de ne pas poursuivre ce ralliement dans l'avenir. Maintenant, je ne veux pas dire que tous les ralliements sont comme cela. Non. Mais j'ai remarqué qu'un des deux leaders de ce mouvement au début, McLaren et Driscoll, un des deux, Driscoll, a abandonné le mouvement parce qu'il trouvait que McLaren et d'autres s'éloignaient tellement de la sainte parole de Dieu qu'il n'était plus confortable avec tout cela. Et Driscoll lui-même, il continue à planter des églises dans l'État de Washington et le Pacific Northwest, qui est une des places la plus séculaire dans l'Amérique du Nord. Il plante au moins 5 églises par année, lui et les copains avec lui. Et il ne veut pas même toucher le mot « émergent » aujourd'hui. Il est beaucoup plus amer contre le mouvement que je pourrais être moi-même. Il est tellement déçu par les résultats, probablement un peu trop même, parce qu'il était à l'intérieur du mouvement. Mais quand même, nous trouvons qu'il y a un groupe qui entre dans le mouvement et qui, s'ils veulent vraiment poursuivre la théologie biblique, après un petit bout de temps, ils s'ennuient un petit peu, ils vont ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas de réflexion profonde de la sainte parole de Dieu dans ce mouvement. Et surtout, je vous donne des exemples là maintenant qui ont une importance suprême. Le dernier livre de McLaren a le titre « The Secret Gospel of Jesus », l'évangile secret de Jésus. Maintenant, avec un titre comme cela, j'ai déjà des problèmes. Je confesse, comme si Jésus avait une espèce de secret qui est révélé seulement à qui? Les érudits, l'Église émergente ou McLaren ou quoi que ça. Je n'aime pas un titre comme cela, comme si il y a une position ésotérique qui nous mène à une révélation privée. Mais ce qui me trouble dans son livre, il donne beaucoup de bons points dans son livre. Je l'ai lu au complet. Il donne de bons points, mais sa position centrale, c'est ceci. C'est celle-ci. Il prétend qu'il va examiner l'enseignement de Jésus sans toucher la question de la croix ou de la résurrection. C'est-à-dire seulement son enseignement dans les évangiles, et en réalité seulement Matthieu, Marc et Luc, qui ne touchent presque pas Jean, sans toucher la question de ses faits, presque même pas de ses miracles, mais certainement pas sa croix ou sa résurrection. Le résultat de cette construction, après avoir tout fait, le résultat ressemble beaucoup à la position des libéraux de 1920. couverte à la fois avec la terminologie postmoderne. Parce que, après tout, qu'est-ce que c'est un évangile? Nous parlons aujourd'hui de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean. Dans le premier siècle, on ne parlait jamais comme cela. Jamais, jamais, jamais. C'était l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Marc. L'évangile selon Luc, et ainsi de suite. Parce qu'il n'y avait qu'un évangile. C'était l'évangile de Jésus-Christ. Selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et l'évangile nécessairement incluait la passion et la résurrection. Cela est en accord avec ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si nous avons plus de temps cet après-midi, nous allons examiner ce passage ensemble ou samedi, Dieu voulant, nous allons passer un peu de temps sur ce passage, parce que si nous parlons de l'évangélisation des postmodernes, il faut commencer avec ce que c'est l'évangile, n'est-ce pas? C'est assez clair, il me semble. Parler de l'évangélisation de quelqu'un sans être en accord de ce que c'est l'évangile, ça gaspille le temps, tout simplement. Il faut être en accord de ce que c'est l'évangile. Et quand l'apôtre Paul parle de ce qui a la première importance, il parle immédiatement de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous y reviendrons. De même, les quatre évangiles bibliques commencent avec Jean-Baptiste, d'autres détails, le ministère de Jésus et enfin la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Même quelques-uns ont dit que les quatre évangiles sont en réalité le narratif de la passion avec une longue introduction. Ce n'est pas exactement juste, mais on comprend au moins ce qu'ils comprennent par cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans le deuxième siècle, on a écrit bien d'autres soi-disant évangiles. L'évangile de Thomas, par exemple. Malgré le fait qu'il y a des érudits qui prétendent que Thomas a été écrit dans le premier siècle, presque certainement pas avant 140, et probablement plus tard. L'évangile de Judas Iscariot, pas avant 160, probablement 170. Et en chaque cas, Thomas, par exemple, ce n'est pas été écrit par Thomas, et c'est seulement une liste de utterances, de paroles, oui, de paroles de Jésus, 114 paroles de Jésus, avec deux petits détails historiques, c'est tout. Il n'y a pas mention de la passion, il n'y a pas mention de l'histoire de Jésus, sa naissance, ce qu'il a fait, où il est allé, ses guérisons, sa résurrection, rien, il n'y a pas d'histoire. Ce sont tout simplement les paroles de Jésus. Et quelques-unes de ces paroles reflètent aussi l'enseignement des paroles de Jésus que nous trouvons dans les évangiles bibliques, mais il y a bien d'autres qui ont un aspect gnostique. C'est-à-dire, du point de vue du premier siècle, ce n'est pas l'évangile. Peut-être on peut l'appeler l'évangile de Thomas, bien entendu que ce n'est pas Thomas qui l'a écrit. Donc, c'est un livre pseudonymique, est-ce qu'on dit? Mais, ce n'est pas l'évangile, selon Thomas. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, selon Thomas. C'est l'évangile de Thomas, mais pas le vrai Thomas non plus. Et c'est un livre gnostique. Mais dans le premier siècle, on parlait tout simplement d'un seul évangile. L'évangile de Jésus-Christ qui incluait nécessairement la passion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension, la cession de Jésus-Christ lui-même. Et à ce point, il faut comprendre aussi ce que Jésus a accompli sur la croix. Et cela est basé sur l'Ancien Testament. Donc, il faut comprendre toute la Bible. Maintenant, quand McLaren et quelques-uns d'autres parlent du sacrifice de Jésus, qu'est-ce que Jésus a accompli dans son sacrifice? Qu'est-ce que la croix a gagné? Immédiatement, ils parlent des théories à travers l'histoire de l'Église chrétienne. Par exemple, la théorie de Christus Victor, c'est-à-dire que Christ a triomphé sur les démons, sur les puissances de la noisseur. Et aussi, il y a le modèle de moralité, comme dans 1 Pierre, chapitre 2. Jésus-Christ a souffert injustement, nous allons aussi souffrir injustement. Donc, c'est un modèle d'humilité, de souffrance. Et aussi, il y a le modèle de substitution. Il a payé le frais de nos péchés. Il a été condamné à cause de nos péchés. Il s'est mis à notre place, un autre modèle, il dit. Et à travers l'histoire, il y a peut-être 6 modèles qui ont eu une bonne période de popularité dans l'Église. Et il dit en effet, et donc aujourd'hui, nous pouvons nous baser sur un modèle ou un autre. Après tout, dans l'histoire de l'Église, bien des chrétiens ont pris position sur une ou un autre, et nous avons le droit de faire la même chose aujourd'hui. Comment répondre? La question primaire à cet égard, c'est ceci. Ne faut-il pas plutôt poser la question, est-ce que ces 6 positions sont basées sur la parole? Si, disons, 4 parmi elles sont véritablement basées sur la parole, donc il faut adopter toutes les 4. Et ensuite, poser la question, comment est-ce qu'ils se mettent ensemble? Comment est-ce qu'ils sont liés? S'il n'y a qu'une seule qui est basée sur la parole, il faut l'adopter. Autant que nous puissions comprendre ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut essayer de faire si nous sommes basés sur la Sainte Parole, n'est-ce pas? Si nous croyons que la Bible est véritablement la révélation de Dieu, il ne faut pas dire tout simplement, eh bien, il y avait des chrétiens qui ont pris une telle et telle position, donc nous avons le droit de prendre la même position. Peut-être ces chrétiens se sont trompés. Peut-être ils ont mal compris la parole de Dieu à cause de leur culture. Peut-être les postmodernistes se trompent à cause de leur culture. Et donc, la seule position du sacrifice de Jésus que McLaren méprise, c'est la substitution. Et autant que possible, j'élève toujours la question, qu'est-ce que la Bible enseigne à cet égard? Dans 1 Pierre chapitre 2 que je viens de mentionner, où la mort de Jésus-Christ fonctionne comme modèle pour nous, pour notre conduite, un modèle donc moral, aussi, à la fois, le même chapitre souligne le fait qu'il est mort pour nous, qu'il a payé qu'il a pris notre châtiment, qu'il a payé la dette. Il y a un autre mot pour penalty. Il a pris notre condamnation, donc, hein. Dans le même chapitre, il y a 2 modèles, dans 1 Pierre chapitre 2, n'est-ce pas? Et il faut poser toujours la question, comment les lier ensemble? Et à cet égard, nous reviendrons à la question de la colère de Dieu. La grande majorité de ce qui se dit dans l'Église émergente parle facilement de l'amour de Dieu. Et ne parle presque jamais de la colère de Dieu. Comment comprendre ces choses? Nous savons tous que l'Ancien Testament mentionne assez souvent la colère de Dieu. Donc, il y a des chrétiens, peut-être même des chrétiens ici, dans cette chambre, qui pensent ou qui présupposent peut-être que l'Ancien Testament nous donne un Dieu rempli de colère, mais le Nouveau Testament nous donne un Dieu rempli de grâce. Dans l'Ancien Testament, nous avons la loi, la justice, la colère, un système de sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un Jésus qui nous enseigne d'être gentil envers nos ennemis, qui nous enseigne d'être humble, et qui donne sa propre vie pour nous. Voilà donc la révélation de l'amour de Dieu. Dieu présenté comme le Dieu d'amour. Et nous ne voulons pas dire qu'il y a presque deux dieux, un dieu de colère et un dieu d'amour, mais assez souvent il y a des présupposés, même parmi les évangéliques, qui se dépendent un peu de cette antithèse, n'est-ce pas? Ou est-ce que je me trompe? Vous êtes tellement mûrs, vous tous, qu'il n'y a personne ici qui prend cette position? Mais quand même, il faut admettre que dans le Nouveau Testament, la personne qui introduit le plus grand nombre de métaphores en ce qui concerne l'enfer, c'est Jésus. Et si vous voulez penser que le Dieu du Nouveau Testament est si gentil, lire les derniers quelques versets de l'Apocalypse chapitre 14. Ou l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. La seule raison pour laquelle nous pensons que nous sommes tentés à penser que le Dieu du Nouveau Testament est plus légère, plus aimable peut-être, moins rempli de colère, la seule raison, c'est parce que ce que le Nouveau Testament souligne, ce ne sont pas des punitions temporelles, mais les punitions éternelles. Et aujourd'hui, nous sommes tellement matérialistes que nous avons plus de crainte de punitions temporelles, la maladie, la guerre, la souffrance, la mort, que la punition éternelle. Mais en réalité, quand on passe du Nouveau Testament de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on ne trouve pas que le Dieu de l'Ancien Testament est beaucoup plus léger ou moins rigide ou plus aimant. Ce que nous trouvons en réalité, c'est que de même façon que en passant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on trouve que la grâce de Dieu et la bonté de Dieu et l'amour de Dieu devient plus clair. De même façon, quand on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la colère de Dieu devient beaucoup plus claire. Qu'est-ce que la croix accomplit? Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que Christ est venu? Maintenant, il y a un grand nombre de réponses qu'on pourrait donner qui seraient toutes justes. Mais au centre, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'il est venu pour nous donner des vies remplies de vision et de bien-être, pour nous donner de bons mariages, pour nous mettre en pleine santé? Pourquoi est-ce qu'il est venu? N'est-ce pas pour nous réconcilier à Dieu? Ça, c'est le point central, n'est-ce pas? Pour nous réconcilier à Dieu, qui est à la fois contre nous et pour nous. Il est contre nous à cause de sa sainteté, sa justice et notre rébellion. Il est pour nous parce qu'il est un tel Dieu. Et à moins que nous apprenions Véritablement, ce fait bien simple, nous n'allons pas comprendre la croix, et donc nous n'allons pas comprendre l'Évangile. Ça veut dire que nous devons comprendre ce que c'est la rébellion, ce que c'est l'idolâtrie, ce que c'est la colère de Dieu, ce que c'est qui nous rend condamnés par Dieu, ce que c'est qui veut dire que nous ne sommes pas tout simplement victimes, malgré le fait que nous sommes victimes, mais aussi nous sommes pécheurs, nous sommes transgresseurs, nous sommes coupables devant lui, nous avons besoin de son pardon, nous devons être réconciliés à Dieu, à moins que nous comprenions que c'est là, c'est ça qui est au centre du message de la Bible. Nous n'allons pas comprendre l'Évangile, la croix, la révélation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si nous n'avons pas une place pour la colère de Dieu, je me demande si nous avons une place véritablement pour l'idolâtrie ou et le péché. Nous devenons tous des pèlerins, des victimes, des personnes en peine, des personnes qui ont besoin d'aide. Toutes ces choses sont vraies. Mais ce n'est pas le centre de ce que la croix a accompli. Il me semble qu'un grand nombre de défendeurs de l'Église émergente ont perdu le centre. Même quand ils ont dit de bonnes choses, et ils en disent de bonnes choses davantage, ils ont perdu le centre. Et ça, c'est un prix trop haut à payer. Par contre, l'Église comme l'Église que j'ai mentionnée à New York, Redeemer Press, où je pourrais mentionner une autre cinquantaine d'Églises qui sont fortes dans l'évangélisation des jeunes ou des postmodernes, des citoyens urbains et tout cela, ces églises sont fortes. Ces églises sont aussi fortes sur la question de ce que c'est le péché, ce que la croix a accompli. Si vous savez comprendre l'anglais quand c'est parlé, pas tout simplement lire l'anglais, mais si en entendant l'anglais vous le comprenez. Vous devez acheter quelques enregistrements de Tim Keller, le pasteur que j'ai mentionné à cette église presbytérienne à New York. Je ne connais aucune autre personne aussi douée à exprimer ce que c'est le péché dans un monde postmoderniste. À ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui pensent que toute chose est relative, que la moralité est seulement le résultat d'un contexte tel et tel, qui enseigne ce que dit la parole en ce qui concerne être perdu, en ce qui concerne ce que c'est la colère de Dieu. Je ne connais personne dans le monde qui est meilleur que lui en exprimant ces choses. Vous voyez? Il a appris comment s'adresser à cette génération. Mais sans perdre l'Évangile. Ça, c'est le point. Si on apprend comment s'adresser à cette génération post-moderniste, et le prix qu'on paie, c'est l'Évangile propre. Le prix est trop élevé. De même, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? La Bible elle-même nous donne plusieurs, pas définitions de la foi, mais présuppose plusieurs définitions, ça dépend beaucoup du contexte et tout cela. Mais dans la ville de Genève, ou à Paris, à Londres, à Washington, à Chicago, en général, pour la majorité de nos citoyens dans l'Ouest, est-ce que vous pouvez m'entendre encore, ou est-ce que... Oui? Pour la plupart de nos citoyens dans l'Ouest, la foi veut dire à peu près une choix personnelle religieuse. Donc, il y a la science ici, mais ici, on ne peut pas discuter parce que c'est une choix personnelle religieuse. si vous êtes musulman, ou si vous êtes bouddhiste, ou si vous êtes chrétien, si vous êtes juif, ben c'est un choix personnel, religieux. C'est tout. C'est tout. Mais dans la Bible, le mot foi n'a jamais cette signification. Jamais. Jamais. Et il y a des détails, des connotations différentes, se dépendant du contexte. Mais dans le Nouveau Testament, la foi est toujours liée à l'objet de la foi. Commençons maintenant avec 1 Corinthiens chapitre 15. Je reviendrai à la question de l'Évangile samedi, mais prenons seulement la question de la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15. Apparemment, il y avait des Corinthiens qui étaient prêts à dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais qu'il n'y avait pas de résurrection à la fin. Paul savait que s'il prenait cette position, ça détruirait un jour même leur confiance dans la résurrection de Jésus. Donc, il insiste, s'il n'y a pas de résurrection, et si Christ n'a jamais été ressuscité d'entre les morts, il y a des implications. Premièrement, il dit, les apôtres et les autres témoins sont des menteurs. Ça revient à la question d'histoire. Ça revient à la question d'histoire. La religion chrétienne est une religion d'histoire. Si vous allez, par exemple, au Japon, et vous voulez témoigner vers les bouddhistes, disons, et si, je ne sais pas comment, mais si vous pouvez prouver, je ne sais pas comment, mais vous pouvez prouver que Gautama, le Bouddha, n'a jamais existé. Si vous pouvez prouver cela, je n'ai aucune idée comment. Est-ce que vous détruirez le bouddhisme? Non, pas du tout. Parce que la crédibilité du bouddhisme se dépend de la cohérence de bouddhisme comme système, pas sur les soi-disant faits historiques. Le bouddhisme, c'est-à-dire, pourrait être détaché de Bouddha sans détruire le bouddhisme. Maintenant, vous allez aux Indes. Et supposons que vous pouvez prouver, je ne sais pas comment, mais vous pouvez prouver que Krishna, un de leurs millions de dieux, n'a jamais existé. Est-ce que vous détruirez la religion des hindous? Non, pas du tout. Vous pouvez trouver un temple à Shiva, par exemple. Il y a des millions. Chez les Grecs, il y avait des mille. Chez les hindous, des millions de dieux et de déesses. Si on perd quelques-uns, quelques-unes, ça ne fait pas grande différence. Ça ne détruit pas le système où toute vérité est attaché à toute réalité. Et l'idée, c'est de s'élever, c'est s'élever par des cycles de réincarnation pour monter dans le système un peu plus haut. Eh bien, maintenant, on a une bonne discussion avec notre musulman, un imam, un enseigneur, un imam de la religion musulmane. Et vous posez cette question, vous lui posez cette question. Pensez-vous qu'Allah, s'il avait voulu, aurait pu donner sa révélation finale à quelqu'un autre que Mohammed? Probablement, il comprendrait mal la question au début. Probablement, il répondrait, oh, vous ne savez pas ce que vous demandez. Nous croyons qu'Abraham était un grand prophète et que Moïse était un grand prophète et que Jésus était un grand prophète. Mais le plus grand prophète, le prophète final, c'est Mohammed. Et vous lui dites, ce n'est pas ça que je pose. Vous savez que je suis chrétien. vous savez que je ne crois pas que Mohammed était le plus grand prophète, mais ce n'est pas la question que je pose. Je pose une autre question. Si Allah l'avait voulu, est-ce qu'il aurait pu donner sa révélation finale à quelqu'un autre que Mohammed? Et sans doute l'imam répondrait, mais certes, après tout, Mohammed n'est pas lui-même la révélation. Il nous a donné la révélation. La révélation vient d'Allah lui-même. C'est-à-dire, il n'y a rien de détail historique personnel d'Allah qui soutient l'évangile des musulmans, pour ainsi dire. Le fait qu'il l'a reçu, oui. Et le contenu de cette soi-disant révélation, sans doute, mais de sa vie personnelle. Maintenant, on arrive au christianisme et on pose la question. Si Dieu l'avait voulu, est-ce qu'il aurait pu donner sa révélation à quelqu'un d'autre que Jésus? La question n'est même pas compréhensible, parce que Jésus est lui-même la révélation. Et pas tout simplement lui dans son incarnation, mais dans quelques événements. Il y avait un évêque de l'église anglicaine à Perth, en Australie, il y a un an, à Pâques, qui a été posé la question, le média, la télévision, lui avait posé la question. Si, je ne sais pas comment, on pouvait prouver, peut-être on trouve son tombeau, on pouvait trouver que Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, qu'il est encore dans son tombeau. Est-ce que ça détruirait votre foi? Et l'évêque a répondu, « Ah, pas du tout. Le Christ est ressuscité dans mon cœur. » Je prétends que la voix de l'apôtre Paul est beaucoup plus claire. Si Christ est encore au tombeau, les apôtres, premièrement, sont menteurs. C'est une religion historique. Ça dépend complètement de quelques faits de l'histoire. Et nous avons accès à ces faits de l'histoire par les témoins qui les ont vus. Maintenant, certainement, ça prend aussi la grâce du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux, parce qu'autrement, nous allons nier ces faits. Sans doute. Ça nous prend la compréhension. Oui, ça prend la régénération. Oui. Mais en fin de compte, si les faits de l'histoire, et nous avons accès à ces faits seulement par les témoins, sont détruits, les témoins eux-mêmes sont faux. Et, en conséquence, l'apôtre Paul nous dit, nous sommes encore dans nos péchés. Ce qu'il présuppose, par cette conclusion, c'est que tout autre que dit la sainte parole de Dieu envers nous, les êtres humains, c'est-à-dire que nous sommes sous la colère de Dieu, que nous devons être réconciliés à lui, mais il n'y a personne pour payer notre dette. Si toute autre chose de la parole est vraie, mais que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, où sommes-nous donc? S'il n'est pas ressuscité, qui peut dire que Dieu a accepté la souffrance de Jésus comme une offrande satisfaisante? Donc, nous sommes encore condamnés. Troisièmement, il dit, votre foi est inutile. Notez bien, il ne dit pas, pourvu que vous soyez sincères, votre foi vous bénit, votre foi est en vain, votre foi est inutile. Si vous croyez quelque chose qui n'est pas vrai, votre foi est mal basée. Vous voyez? C'est-à-dire, la validité de la foi. Est-ce qu'on dit validité? La validité de la foi est basée en partie sur l'objet de la foi. Et si l'objet de la foi n'est pas vrai, même si vous êtes bien sincère, votre foi n'est pas valide. Donc, ça donne une définition de la foi bien éloignée de ce qui est présupposé sur les chemins de Genève, où la foi est seulement un choix religieux personnel. C'est pour cette raison que dans le Nouveau Testament, on renforce la foi, on établit la foi, on édifie la foi en proclamant la vérité. On améliore la foi, on établit la foi en proclamant la vérité, parce que cette vérité nous donne, nous exprime, nous renforce la validité de l'objet de la foi. Sans un bon objet de la foi, nous n'avons pas de vraie foi. Et en plus, l'apôtre Paul va si loin de dire que nous sommes des personnes qu'il faut pitié, est-ce qu'on dit? Et qu'il faut pitié, après tout, qu'il faut plaindre, oui. Parce que ce n'est pas une position pour lui honorable. Ce n'est pas une position bénie. Ce n'est pas une position bénie par la sincérité. On peut être bien sincère, mais si on se trompe en ce qui concerne l'objet de la foi, c'est une position pitiable. Ce n'est pas une position d'honneur. Donc, vous voyez que dans le Nouveau Testament, malgré le fait que la foi, c'est beaucoup plus que seulement croire quelque chose qui sont vrais. Après tout, le diable lui-même peut croire la vérité sans avoir la foi qui sauve. Oui, je comprends cela. Ce n'est jamais moins qu'avoir un bon objet de la foi. Et si on détruit l'objet de la foi, c'est-à-dire la vérité de ce qui a eu lieu dans l'histoire, ou la réalité de ce qui se fait dans les cieux, ce que Dieu fait, que nous connaissons seulement par ses révélations, si ces choses sont fausses, notre foi est fausse. Et nous sommes pitiables. Maintenant, ces choses sont tellement élémentaires dans le Nouveau Testament, que si nous perdons ces choses, nous perdons l'Évangile. Donc, on appelle seulement à un esprit d'ouverture, ou un esprit où Dieu vient nous aider, où Dieu nous accepte parce qu'il nous aime, ou quoi que ce soit, sans la place pour la croix, la résurrection de Jésus, et tout ce que ça intègre ensemble, tout ce que ça renvoie ensemble de la théologie, des attributs de Dieu, de sa sainteté, de ce qu'il fait pour non pas tout simplement démontrer son amour, mais pour nous sauver par son amour. Nous avons tellement détruit l'évangile historique de Jésus-Christ que nous avons tout perdu. Eh bien, il y a bien d'autres endroits que je pourrais mentionner cet manque de fidélité biblique, mais j'arrive au sixième point. Dans leur désir, un désir admirable d'être plus large qu'une seule tradition, d'être basé sur bien des périodes de l'Église et pas tout simplement notre petite tradition, disons, évangélique ou réformée ou quoi que ce soit. Dans leur désir de s'enraciner dans la grande tradition. En réalité, ce qu'ils font de plus en plus, c'est d'en tirer un petit morceau de tradition ici, un autre petit morceau de tradition là-bas, peut-être des icônes, comment est-ce qu'on les appelle? Des icônes? Des icônes, Ouais. Ici, peut-être un peu de rite ou de liturgie là-bas, ou peut-être un livre pour écrire nos pensées spirituelles dans notre culte personnel, ou quoi que ce soit. Ils en tirent un peu de tradition ici et là, ici et là, ici et là. En réalité, ils ne s'enracinent pas dans une tradition, mais ils choisissent leur propre préférence traditionnelle pour en créer leur propre tradition. C'est-à-dire, ils ne sont pas contents de vivre dans une tradition, mais ils veulent créer leur propre tradition. C'est une autre manière de dire qu'il devient coupable de sectarianisme, est-ce qu'on dit? Il devient sectaire. Sectaire? Séculaire? Sectarisme? Sectarisme? Ils deviennent coupables de sectarisme, c'est-à-dire, au lieu de s'enraciner dans une tradition, ou dans deux ou trois traditions, il devient tellement, on a une expression en anglais, pick and choose, ils choisissent une portion ici, ils choisissent une portion là-bas, puis ils mettent ça ensemble pour créer leur propre tradition. Et ça, c'est la position la plus sectaire, il me semble, de toutes, n'est-ce pas? Donc, au nom de s'enraciner dans la tradition, en réalité, ils sont le plus égoïste de tous. Parce qu'ils ne veulent pas s'enraciner dans une tradition déjà établie, mais établir leur propre tradition. Maintenant, s'ils veulent le faire parce qu'ils croient véritablement que ces éléments différents sont exigés par la parole, c'est complètement aimable et honorable et dévoué et fidèle. Mais s'ils font cela seulement parce qu'ils trouvent que c'est amusant ou c'est agréable ou ça leur aide un peu ou quoi que ce soit, sans connaître qu'il y a des liens aux écoles, par exemple. Il y a des liens, il y a des présupposés, il y a des implications théologiques à ces choses, hein, qu'il faut connaître, autrement on tombe dans les mêmes sources, les mêmes erreurs, les mêmes avantages de l'histoire sans même les connaître, vous voyez? Si j'ai le droit tout simplement de choisir mes traditions à maintes reprises, c'est moi encore qui établis la tradition. Je suis Dieu. Mettre ça dans un autre contexte. Même parmi ceux, parmi l'Église émergente, qui sont véritablement fidèles à l'Évangile, il y a un grand nombre de telles personnes, qui sont fidèles véritablement à l'Évangile et qui s'intéressent à évangéliser ceux qui sont aux marges de la société. Aux marges de la société, merci. Aux marges de la société. Quand même, ce qui me trouble un peu, c'est que ces personnes veulent se dire membres de l'Église émergente. Je suis baptiste. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis Canadien. Qu'est-ce que je peux dire? Mais est-ce que je suis baptiste avant d'être chrétien? Est-ce que je suis Canadien avant d'être citoyen du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je trouve qui est tellement émouvant, tellement important, tellement central, que je suis prêt à perdre ma vie pour cette chose? Parce que si l'Évangile est quelque chose qui est présupposé, mais ce qui m'intéresse, c'est l'Église émergente. Si je présuppose l'Évangile, même si je ne le perds pas, mais je présuppose l'Évangile, mais ce qui m'encourage, ce qui m'intéresse, ce qui exige mon étude, c'est la différence culturelle entre mon temps et le temps de mon père. Qu'est-ce que j'enseigne à mes étudiants? Mes étudiants seront encouragés par ce qui m'encourage. Mes étudiants seront fondés sur les choses que je trouve les plus importantes. Et je ne veux pas qu'ils trouvent que ce que je trouve est la chose la plus importante, c'est le fait que je suis baptiste. ou que je suis Canadien, ou que je suis réformé, ou quoi que ce soit. Je veux qu'ils reviennent à Jésus-Christ. Je veux qu'ils reviennent à l'Évangile. Je veux qu'ils reviennent toujours à ce qui est central dans la Sainte Parole de Dieu. Et si ça c'est toute ma vie, ma passion, mon désir, la chose pour laquelle je suis prêt à mourir, grâce à Dieu, je vais établir mes étudiants sur la même chose centrale. Mais si je présuppose tout simplement l'Évangile, mais ce que je trouve la chose la plus intéressante ou la plus importante, c'est les changements de culture. Je vais, dans la deuxième génération ou la troisième génération, perdre mes étudiants. C'est ça qui m'encourage avec un homme comme Tim Keller à Redeemer Press, ou d'autres que je pourrais mentionner, Mark Dever à Washington DC, ou bien d'autres en Angleterre et en Australie, et d'autres portions du monde que je connais, un peu mieux que je connais le monde francophone, où il y a cette passion pour l'Évangile et pour Jésus-Christ, et pour ce que l'apôtre Paul dit est au centre, la croix et la résurrection de Jésus-Christ, hein? Si on protège cela, et à la fois on pose la question, comment évangéliser nos prochains? Comment aimer nos prochains avec l'Évangile? Cela nous encourage de protéger ce qui est au centre, de ne pas perdre l'Évangile. Autrement, nous tombons dans le sectarisme. Il n'y a pas manière de l'échapper. Eh bien, c'est maintenant à peu près 17h30, et selon l'horaire, je dois laisser assez de temps pour des questions, la discussion. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait élever, mais peut-être je dois mentionner ceci. Il y a 2 ans à peu près, j'ai donné une conférence à un collège, c'est-à-dire une petite université. Chrétien en Amérique, où le mouvement de postmodernisme était tellement fort que ils m'ont invité de parler à ce sujet, et mon discours apparemment a causé une grande division dans l'assemblée. Il y avait des troubles partout, et en fin de compte, un jeune homme, après une des périodes de discussion, il est venu me voir. Il était à veille d'achever son bac. Et il est venu me voir et il m'a dit en effet, je comprends ce que tu dis. Et peut-être tu as raison. Mais chaque fois que je lis la parole de Dieu et je trouve des expressions qui parlent de la vérité, pour toujours tes paroles sont fondées dans les cieux. Et pas tout simplement une expression qu'on trouve dans Jean 14, 6, que Jésus lui-même est la vérité, un contenu personnel, mais les paroles de Dieu sont vraies. Chaque fois que je trouve ces expressions qui parlent de la vérité, ces expressions, il m'a dit, sont tellement éloignées de ma pensée maintenant, sont tellement difficile à accepter que je ne sais pas quoi faire avec ces mots. Nous savons aujourd'hui que la vérité ne se trouve pas dans le monde public. C'est tout simplement une perspective. Il y a d'autres perspectives. Comment parler de la vérité de Dieu comme cela? Donc, je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Oui, mais je trouve ça tellement difficile à accepter chaque fois que je tombe sur une telle expression que je ne sais pas quoi faire avec cela. Je lui ai dit, je te donne des devoirs. Retourne chez toi. Prendre une concordance et écrire chaque verset où se trouve le mot vérité. Ensuite, essayez de trouver tous les versets où la Bible parle d'avoir confiance dans la vérité. Par exemple, Luc écrit à Théophilus. Théophile, ah oui, à Théophile, il lui écrit qu'il écrit ces mots pour lui donner la confiance dans l'évangile qu'il avait déjà présenté. Et 1 Jean chapitre 5, verset 13, et les épîtres pastorales, et tous les versets qui parlent de la confiance dans la vérité. Il faut tous les écrire. Et ensuite, les lire et les relire. Et ensuite, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que c'est dans le postmodernisme qui me gêne quand je lis ces versets? Parce que, certes, il te faut choisir. Si tu acceptes tous les préjugés du postmodernisme dur, comme enseignent plusieurs de vos professeurs, et que toute vérité est relative, et que la seule façon de parler de vérité ou connaître la vérité, c'est la façon de présupposer qu'on est Dieu, qu'on est omniscient, autrement on ne peut pas en parler, si vous présupposez tout cela, donc vous devez rejeter la Bible. Parce que la Bible en parle tellement que c'est honteux si vous vous trouvez gêné devant un tel grand nombre de passages. Donc j'ai inclus 200 ou 300 de ces passages à la fin de mon livre que j'ai écrit à ce sujet, seulement pour nous faire souvenir que Dieu a parlé assez souvent de la vérité, n'est-ce pas? Et on n'a pas le droit de se gêner devant ce qu'il a écrit. Eh bien, c'est le repas qui va émerger assez prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.